Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je pense qu'aujourd'hui, si on vous demandait quel saint nous célébrons, vous n'auriez pas de difficulté à savoir. C'est un saint que les enfants aiment beaucoup. Le 6 décembre, c'est Saint-Nicolas. Et c'est une habitude qu'on a, le jour de la Saint-Nicolas, on apporte des petits cadeaux. Des oranges, des mandarines, des cacahuètes, de toutes sortes, des pains d'épices. C'est pour ça qu'on aime beaucoup ce saint-là. Et pourquoi? Pourquoi on offre ces choses le jour de la Saint-Nicolas? Eh bien parce que Saint-Nicolas a été un des saints d'une grande charité. Une charité tout d'abord avec le bon Dieu. Oh, comme il aimait le bon Dieu. Si nous pouvions aimer le bon Dieu comme Saint-Nicolas, eh bien nous serions bien différents. Il aimait énormément le bon Dieu. Vraiment de tout son cœur. Mais aussi, il avait une grande charité envers tout le monde. Oh, il a fait des merveilles toute sa vie, de nombreux miracles. Ses parents, qui étaient mariés déjà depuis nombreuses années, n'avaient pas eu d'enfants. Et ils étaient tout tristes. Ils auraient tant voulu avoir un enfant. Ils ont beaucoup prié. Et plus tard, ils ne pensaient même plus avoir des enfants. Un jour, un ange est apparu et leur a dit, « Bien, vous aurez un fils, mais vous l'appellerez Nicolas. » Ah, ça fait un grand plaisir à la maman, parce que la maman avait un frère qui s'appelait Nicolas et qui était un évêque, un grand évêque. Alors elle était toute heureuse de pouvoir appeler son fils Nicolas. Et c'était une grande joie. Ils ne pensaient plus avoir d'enfants et voilà qu'ils ont un garçon. Alors très vite, on est allé le baptiser. Mais à ce moment-là, les baptêmes étaient différents chez nous. Comme je vous l'avais dit une fois, les enfants étaient trempés dans l'eau, tout entier. On a baptisé le petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis sur ses pieds, il a joint ses mains, il a levé la tête au ciel et il est resté comme ça pendant 2 heures. Un tout petit, il venait de naître. C'était un miracle. Il faisait déjà des pénitences tout petit. 2 jours par semaine, il refusait de prendre le lait de la maman, que la maman lui présentait, le mercredi et le vendredi. Et toute sa vie, il a continué à jeûner. 2 jours par semaine, le mercredi, c'est-à-dire qu'il ne prenait qu'un seul repas, le soir. C'était une famille riche, il aimait apprendre. Mais aussi, il y avait dans ses écoles des camarades qui donnaient le mauvais exemple. Eh bien, lui, il les fuyait toujours, il n'allait jamais avec ses camarades-là. Quand il voyait qu'il y en a un qui faisait des choses pas belles, des mauvaises choses, il partait, il n'allait pas avec eux. Et au contraire, il recherchait les camarades qui étaient vertueux, ceux qui donnaient le bon exemple. Il aimait être avec eux. Il était aimé par tout le monde, car il était d'une grande charité. Et puis il grandit, et un jour ses parents sont morts. Il était le fils unique, les parents étaient décédés, il a hérité toute la fortune de ses parents, mais il avait l'habitude de donner aux pauvres, dès qu'il voyait un malheureux, lui donner un peu d'argent, ou des chaussures, ou des vêtements. Et il avait appris que dans cette ville où il habitait, il y avait un homme qui avait été fortuné et qui avait perdu toute sa fortune. Mais le problème, c'est qu'il avait 3 filles et il voulait marier ses filles. Et à ce moment-là, quand quelqu'un voulait marier ses filles, il devait donner une somme d'argent et aux parents du jeune homme et au jeune homme. C'était la dot, c'était comme ça. Alors celui qui n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas marier ses filles. Alors, il ne savait plus quoi faire, il était tout malheureux, il voulait le bien de ses filles. Alors il s'est dit, eh bien, je vais faire des péchés à mes filles, et puis comme ça elles gagneront de l'argent. Et c'est Nicolas qui avait appris ça. Alors il s'est dit, non, je vais trouver une solution, on ne va pas laisser faire ça, ça offense trop le bon Dieu, ça s'exclut, pas laisser faire. Alors il allait la nuit, en douce, autour de la maison, il cherchait à savoir où dormait le papa. Ah, il avait trouvé la chambre, et la fenêtre était ouverte. Alors il jetait un petit sac avec des pièces d'or dedans. Et puis bien sûr, quand c'est tombé sur le plancher, ça fait du bruit. Le papa était réveillé, il faisait nuit, il ne voyait rien. Qu'est-ce qui se passe? On vient me cambrioler, on me jette des pierres dans la maison, qu'est-ce que c'est que ça? Il allume la bougie, et il trouve un petit sac par terre. Il regarde, des pièces d'or. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un miracle! Mais ça vient d'où ça? Il regarde, il sort à la fenêtre, il ne voit personne. Alors il a pu marier sa première fille, plein de joie. Il avait assez d'argent pour payer ce qu'il fallait pour marier la première fille. Après, il fallait marier la deuxième fille. Alors, de nouveau, gros problème, il ne savait plus comment il fallait faire. Et voilà que Saint-Nicolas avait appris de nouveau, et en la nuit, il lui a jeté un petit sac de pièces d'or dans la chambre. De nouveau, il se fait réveiller. Alors ça, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est formidable. Il regarde de nouveau la fenêtre, personne. Puis, il fallait marier la troisième fille. Alors, de nouveau, gros problème, plus rien. Comment je vais faire? Alors il s'est dit, je vais surveiller. Hein. Je vais essayer de guetter, je vais dans le jardin. Et puis, bien sûr, Nicolas qui regarde partout, il voit personne. Donc il vient sur la pointe des pieds et il jette un petit sac. À ce moment-là, l'autre, il sort de son buisson et il vient au pied de Saint-Nicolas, il se met à genoux. Il le remercie d'avoir telle charité, parce que c'était une honte pour lui, ce qu'il allait faire, et c'était une honte aussi de paraître pauvre alors qu'il avait beaucoup d'argent avant. Et depuis ce jour-là, alors il est devenu un grand chrétien. Et puis son oncle Nicolas, l'évêque, a vu qu'il était plein de vertus, il a dit, eh bien, il faut que tu deviennes prêtre. Va devenir prêtre. Alors il a dit, oui, très bien, je suis tout heureux de me mettre au service du bon Dieu. Puis il a été ordonné prêtre et il a été nommé supérieur d'un monastère de religieux. Mais lui, il aurait voulu se retirer du monde, prier comme les moines dans le désert, tout seul, prier pour Dieu, vivre que pour Dieu, loin du monde. Mais le bon Dieu ne voulait pas cela. Il voulait qu'il soit au service des âmes. Un jour, son oncle Nicolas voulait aller en Terre Sainte, vénérer les lieux que Jésus avait vécu. Jérusalem, Nazareth, Bethléem, tout ça. Alors il a dit, eh bien, à son neveu, tu t'occuperas de mon diocèse, tu t'occuperas de tout pendant ce temps que je m'en irai là-bas. Alors il est parti. Et il s'est occupé si bien de son diocèse que tout le monde était très content. Puis quand son oncle est revenu, alors il s'est dit, ben maintenant je me retire. Je vais dans la solitude, j'ai plus de soucis, je n'ai pas de charge, je vais me retirer pour prier le bon Dieu. Et puis je vais aussi aller moi en Terre Sainte. Alors il est parti en Terre Sainte. Il est au port, il a pris le bateau, et en pleine mer, une tempête violente qui s'est élevée. Tout le monde commence à trembler. Cette fois-ci, on est noyé, on est perdu. Alors on jetait les bagages pour alléger le bateau. On jetait tous les bagages par-dessus bord, dans la mer. Les blés, les nourritures, tout ce qu'on avait, on jetait. Il faut alléger le bateau, sinon on va tous couler. Alors, vaut mieux perdre un peu les choses qu'on a dans le bateau, puis sauver nos vies. Alors Nicolas, quand il voyait qu'il commençait à sortir les bagages, il est allé vers le capitaine, il a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter sans tarder. Vous croyez? Mais comment on peut faire? Ne vous inquiétez pas. Et puis, ça secouait terriblement. Au sommet des mâts, vous savez, c'était des bateaux à voile, alors il y avait des mâts sur les bateaux. Puis au sommet du mât principal, il y avait une plateforme pour la vigile. Un marin qui montait, puis qui regardait au loin s'il y avait quelque chose, s'il y avait une île en vue ou quelque chose. Et puis le bateau a tellement secoué que celui qui était en haut est tombé sur le pont. Et il s'est écrasé, il est mort. Saint-Nicolas avait prié, la tempête s'était calmée. Puis ensuite il est venu vers le pauvre qui est tombé là, qui était mort. Il a prié, il l'a pris par la main et il l'a ressuscité. Tout le monde était en admiration. Puis on a dû s'arrêter dans une ville, à Alexandrie, pour remettre un peu en ordre le bateau, prendre des vivres et pour pouvoir suivre le voyage. Les marins qui étaient descendus annonçaient à tout le monde dans la ville, on a ajouté, on a un saint sur le bateau, on a une tempête terrible, on aurait dû être noyé et on a été sauvé. La tempête s'est arrêtée. Il y en a un qui est tombé et qui est mort, eh bien il a été ressuscité. Alors les gens venaient tous voir Saint-Nicolas, ils apportaient les enfants et lui les guérissait en faisant le signe de croix. La puissance du signe de croix. Il guérissait les enfants de toutes les maladies. Mais ensuite il a dû repartir en Terre Sainte. Et là, il a visité les lieux que Jésus est venu sanctifier. Il est allé à Nazareth voir la maison de la Sainte Vierge. Il est allé à Bethléem voir la crèche, la grotte où l'enfant était né, à Jérusalem, la ville où Jésus a été crucifié, tout ça. Il a parcouru tout ça à pieds nus, par pénitence. Puis, il s'est dit, maintenant, je vais rester là, dans une grotte, et puis je vais finir ma vie là, à prier le bon Dieu. Le bon Dieu, lui, est apparu, lui a dit, non, on a encore besoin de toi, tu rentres au pays. Oh, alors, il a dit, bon, si le bon Dieu il veut comme ça, je vais. Mais il aurait bien voulu rester. Et il est parti. Et le matelot qui l'a emporté, il s'est dit, il veut retourner à Myre, en Lycie, eh bien, je vais l'amener à Constantinople, mais je ne vais pas lui dire. Et voilà qu'on était parti, Saint-Nicolas n'a pas fait attention, et tout d'un coup, une grande tempête s'est élevée. Le capitaine a compris qu'il avait fait un péché grave de vouloir tromper Saint-Nicolas et de l'amener ailleurs où il voulait. Alors il est allé demander pardon à Saint-Nicolas en lui expliquant ce qu'il voulait faire. Et Saint-Nicolas a calmé la tempête et on est parti jusqu'à Myre. Là, il a été accueilli par tout le monde. Ses brunes étaient passées et ils étaient tout heureux de le retrouver. Là, il a fait des quantités de miracles. Lorsque l'évêque était mort, il a fallu choisir un autre évêque pour le remplacer. Alors les évêques de la région étaient venus pour chercher quelqu'un à le remplacer. Et une nuit, un des évêques qui était là présent a eu une vision. Le bon Dieu lui a dit, « Moi, j'ai déjà choisi celui que je veux comme évêque ici. Eh bien, ce sera le premier prêtre qui viendra demain à la porte de l'église. Eh bien, ce sera celui-là que j'ai choisi pour évêque. » Et bien sûr, le matin de bonne heure, Nicolas avait l'habitude d'aller à l'église. Comme d'habitude, il s'est levé, il est parti à l'église prier. Et le prélat est arrivé au même moment, il l'a reconnu. Alors il lui a expliqué la vision, il a dit, « Ben, tu dois venir. » Le bon Dieu m'a dit que ce serait toi qui serais évêque. Oh, il ne voulait pas devenir évêque. Il aurait dit, mais non, écoutez, laissez-moi. Moi, j'aime mieux être dans mon monastère. Je peux mieux prier le bon Dieu. Non, 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 non. Le bon Dieu a décidé, tu dois venir. Oh, ça lui a coûté. Hein. Mais enfin, il a quand même accepté puisque c'était la volonté du bon Dieu. Mais avec bien de la peine. Alors, il y a eu, après cette élection, une grande messe pontificale. Tous les évêques étaient réunis autour du nouvel évêque, Nicolas. Et à la sortie de la messe, une maman est arrivée avec un enfant qui était tombé dans le feu et qui était mort. Elle a porté l'enfant comme ça devant l'évêque. L'évêque a fait le signe de la croix et l'enfant était ressuscité. Alors tout le monde était très surpris, étonné de voir comment il pouvait faire des miracles. Et un jour, il y avait une grande famine dans toute la région où ils habitaient. Pas de récolte, pas de réserve. Les gens ne savaient bientôt plus quoi manger. Et il y avait dans le port de Sicile, en Italie, un marchand qui était avec son bateau plein de blé et qui allait partir en Espagne vendre son blé. Et pendant la nuit, Saint-Nicolas lui est apparu, lui a dit, « Non, 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 tu n'iras pas en Espagne, tu vas aller à Mire. » « Comment je vais aller à Mire? Moi, j'avais décidé d'aller en Espagne, là-bas, je pourrais vendre mon blé cher et on me l'achètera tout entier. Tu iras à Mire. » Oh, non. Là, il n'a pas osé faire autrement. Puis, Saint-Nicolas a dit, « Eh bien, pour t'encourager à la Mire, il lui a donné 3 pièces d'or. » Et le matin, quand il s'est réveillé, il a vu qu'il avait 3 pièces d'or. Alors il s'est dit, mais c'était pas un rêve, c'était bien une vision. Alors il est allé à Mire, amener le chargement de blé. Tout le monde était content d'avoir eu du blé. Et il y avait d'autres matelots, qui étaient dans le port aussi, qui allaient partir ailleurs, en Alexandrie. Et Saint-Nicolas lui est apparu, il a dit, non, 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 vous irez à Mire. Ah non, non, nous on a promis d'aller là-bas, vous irez à Mire. Vous donnerez au moins une partie. Et vous inquiétez pas, ce que vous donnerez, vous le récupérez. Alors ils sont allés à Mire, ils ont déchargé la moitié du bateau, ils ont vendu ce blé, et après ils sont allés à Constantinople. Et quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Il y avait autant de blé qu'au départ. Tout le blé qu'ils avaient vendu à Mire, ils l'avaient retrouvé dans le bateau. Alors ils ont fait 2 fois fortune. Les miracles, ils en faisaient en quantité. Un jour, il y avait des ouvriers qui étaient là, qui travaillaient à la construction d'une église. Et ils n'avaient rien à manger. Alors ils sont allés voir Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a dit, ma foi, qu'est-ce que vous avez? Rien du tout, pas même un petit morceau de pain? Si, il y en a un qui a pris un petit crotillon de pain là, mais c'est tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est ça pour 83 ouvriers qui travaillaient dur, et ça mange les ouvriers qui travaillent dur. Alors il a pris le pain, il a commencé à donner à tous les ouvriers. Et il y a eu assez, même plus qu'il fallait pour tous les ouvriers. Il faisait des miracles à tour de bras. C'était formidable. Et un jour, il y avait donc un empereur qui est venu et qui a recommencé la persécution, à persécuter les chrétiens. Des soldats étaient venus dans la ville, emmenaient les chrétiens, ils les torturaient, ils les tuaient. On disait, mais là, vous sacrifiez à nos dieux. Ils disaient, non. Alors Saint-Nicolas, quand il a appris ça, il est venu parmi les fidèles, il est venu les encourager. N'ayez pas peur, si vous devez mourir pour Jésus, ça c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Vous donnez votre vie à Dieu, c'est le martyr, vous irez droit au ciel. Courage! On néglige pas notre Seigneur, on ne renonce pas. Alors tout le monde était encouragé. Et quand l'empereur a su que c'était Nicolas qui encourageait les chrétiens à pas sacrifier aux idoles, ils sont venus l'attraper, mettre au cachot et ils voulaient condamner à mort. Mais quand la ville a appris qu'on voulait condamner à mort Saint-Nicolas, tout le monde s'est soulevé, il y allait avoir une révolution, une telle réclamation de la part des gens de la ville que l'empereur a eu peur. Alors ils ont emmené Nicolas dans un autre pays. En exil. Et là, tous les jours, on le flagelait. Et on le flagelait si fortement qu'on lui déchirait la peau. Et le sang coulait. Mais lui, il offrait tout cela. Il pensait à la flagellation de Jésus. Plus tard, il y a eu Constantin qui est venu et qui a rendu la paix à toute l'église. Alors il est revenu dans son église. Oh, tout le monde l'a accueilli avec grande fête. Il était tant aimé. Puis, il a été appelé aussi au concile de Nicée. Vous savez qu'il y a eu, à cette époque, un homme qui s'appelait Arius, qui disait des erreurs graves, on appelle la crise arienne. Et là, il est allé défendre les droits de notre Seigneur Jésus-Christ au concile de Nicée. Et un jour, il était aux portes de la ville et il voit arriver trois ministres. Alors il les salue, puis les ministres le saluent, puis il dit, quel bonheur, quel bon vent vous amène ici. Il dit, ah, si vous saviez, on a une malheureuse mission. L'empereur nous envoie, on doit venir condamner à mort des prisonniers parce que le juge de la ville a dit qu'ils avaient fait des fautes et c'est pas vrai, ils sont innocents. Mais on n'arrive pas à prouver qu'ils sont innocents, alors on est obligé de venir les condamner à mort. Mais on n'est pas d'accord, mais on ne sait pas comment il faut faire. Puis si on ne fait pas ça, l'empereur nous tue, parce qu'on a manqué à notre devoir. Alors Nicolas, quand il a appris ça, il est allé à la prison, il est allé devant le juge, puis il a dit, maintenant, tu délivres ces prisonniers. Ils étaient déjà bandés, on allait leur couper la tête. Et garde-toi, tu as eu un faux jugement, tu as mal jugé ces prisonniers. Et il a fait un billet en disant au ministre, c'est Nicolas qui prend en charge, ils sont innocents. Alors il a fait refaire le jugement, Saint-Nicolas a montré où était la faute dans le jugement. Alors ils ont été reconnus innocents et ils ont été délivrés. Et les ministres sont retournés à Constantinople pour annoncer à l'empereur ce qui s'était passé. Mais il y a eu des jaloux, alors ils ont menti et ils ont fait croire que ces ministres, ils avaient reçu de l'argent pour dire qu'ils étaient innocents. Alors l'empereur, quand il a appris ça, furieux, il a fait mettre les ministres en prison et ils étaient condamnés à mort parce qu'ils n'avaient pas fait comme il faut les choses. Alors ils étaient en prison pour avoir voulu épargner l'innocent. Alors il y en a un qui a dit, on va prier Saint-Nicolas, certainement qu'il va nous aider, même s'il n'est pas là. Alors ils se sont mis à prier, et pendant la nuit, Saint-Nicolas est apparu à l'empereur Constantin, et a dit, maintenant tu te lèves tout de suite. Qui es-tu pour me parler comme ça? Moi, l'empereur, tu te lèves tout de suite. Il a eu un peu peur, alors il s'est levé. Il a dit, maintenant tu vas donner l'ordre de libérer ces ministres que tu as fait enfermer. Ils sont innocents, c'est moi qui ai délivré ces innocents de l'autre ville. Oh, l'empereur est un peu effrayé par le ton de la voix de Saint-Nicolas. Et il a fait donc venir le ministre, le bourreau, qui devait le condamner à mort. Et le bourreau a eu la même vision de Saint-Nicolas. Il lui a dit, tu vas me délivrer ces prisonniers. Alors ils ont tremblé, puis ils les ont délivrés, puis ils leur ont dit, écoutez, c'est Nicolas qui nous est apparu et qui nous a dit de vous délivrer, vous étiez innocents. Allez le trouver, donnez-lui des richesses. Alors ils lui ont donné un calice en or, ils lui ont donné un bel évangile, des belles choses pour son église. Et ils sont allés raconter ça à Saint-Nicolas. Et il y aurait encore beaucoup de miracles qu'on pourrait raconter sur Saint-Nicolas. Une quantité des quantités. Mais on va s'arrêter là, sinon on finirait plus. Mais il faudra que vous aimiez bien Saint-Nicolas, pas seulement pour les cadeaux et les choses que vous recevez sur ce jour, mais il faudra lui demander à Saint-Nicolas de nous aider à avoir la charité qu'il a eue. La charité pour le bon Dieu et la charité pour les autres. Nous apprendre à être bons envers tout le monde. Vous demanderez aujourd'hui à Saint-Nicolas, et quand vous recevrez les choses que l'on vous donnera aujourd'hui, de la part de Saint-Nicolas, eh bien vous penserez, vous serez partagé, vous ne serez pas avare, voyez, et vous remercierez le bon Dieu de nous avoir donné un saint comme Saint-Nicolas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est la fête de la présentation de la très sainte Vierge au Temple. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être qu'on vous a déjà raconté ce que cela veut dire. On vous l'a déjà expliqué. Il était une coutume chez les Israélites d'offrir leurs enfants au bon Dieu. Et surtout si c'était des enfants qui naissaient miraculeusement, c'est-à-dire qui était venu à la suite de prières et d'une intervention du bon Dieu. Par exemple, Samuel, le prophète Samuel, vous connaissez un peu cette histoire, hein, celui qui était dans le temple et puis qui entendait la nuit, quelqu'un qui l'appelait, Samuel, Samuel. Alors il allait voir le grand prêtre et disait, vous m'avez appelé? Mais non, je ne t'ai pas appelé, etc. Et vous connaissez l'histoire, c'était Dieu qui l'avait appelé parce qu'il voulait lui parler. Eh bien voilà, Samuel, hein, sa maman s'appelait Anne. Et sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant, alors elle avait beaucoup prié, demandé au bon Dieu, et enfin, elle a pu avoir ce petit Samuel. Et ensuite, elle l'a offert au temple, il est resté au temple, il vivait au temple. dans le temple de Jérusalem. C'était une grande bâtisse. Il y avait, bien sûr, l'endroit où on offrait les sacrifices. Il y avait l'endroit où on appelle le Saint des Saints. C'est où il y avait un autel avec des chandeliers d'or. Le prêtre portait de l'encens à brûler pour Dieu. Là était gardée l'Arche d'Alliance. C'était l'endroit le plus précieux du temple, un peu comme le tabernacle. Puis, il y avait d'autres demeures où étaient logés des garçons et à un autre endroit étaient logés des petites filles qui ensuite grandissaient dans le temple. Et bien voilà, c'est ce dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. Saint Joachim, c'était le papa de la Sainte Vierge, et Sainte Anne, c'était la maman de la Sainte Vierge, sont allés au temple pour offrir la Sainte Vierge au bon Dieu. Vous savez, ça a dû être très dur pour eux. La Sainte Vierge, vous savez qu'elle n'a pas eu le péché originel. Eh bien, comme elle n'a pas eu le péché originel, elle n'a jamais fait un seul péché. Jamais un mensonge, jamais une désobéissance, jamais une méchanceté, jamais un mot grossier, rien. Tout était parfait, gentil avec tout le monde, aimable. Elle aimait ses parents et comment elle les aimait, ses parents. Tout ce qu'elle pouvait faire pour leur rendre service, elle le faisait. Eh bien, à l'âge de 3 ans, c'est encore petit, hein, eh bien les parents, Saint Joachim et Sainte Anne, sont partis à Jérusalem pour offrir la Sainte Vierge au temple, pour offrir au bon Dieu et la laisser au temple de Jérusalem. Ça a été très dur pour eux, car ils l'aimaient beaucoup, la Sainte Vierge. C'était la seule enfant qu'ils avaient, et puis un enfant pareil, gentil comme tout, serviable, et toutes les qualités, que des qualités, aucun défaut. Cependant, Saint Joachim et Sainte Anne, qui aimaient beaucoup, beaucoup la Sainte Vierge, aimaient encore davantage le bon Dieu. Alors ils se sont dit, bien, oh mon Dieu, puisque vous nous avez donné la petite Marie, eh bien nous allons vous l'offrir. Ça nous coûte beaucoup. C'est une consolation pour nous, mais voilà, nous vous l'offrons. Nous faisons un sacrifice. Voilà ce que c'est qu'un sacrifice. C'est donner au bon Dieu quelque chose qui nous est cher. Lui donner à lui. Se priver de quelque chose que l'on aime, qui nous est cher. Eh bien, Saint Joachim et Sainte Anne ont offert la Sainte Vierge au bon Dieu. Et depuis ce jour-là, elle est restée au temple. Elle n'est plus jamais revenue à la maison. Vous vous rendez compte? Depuis l'âge de 3 ans. Alors vous pensez la peine qu'ont eu Saint Joachim et Sainte Anne lorsqu'ils sont partis de Nazareth jusqu'au temple, en pensant qu'ils allaient laisser la Sainte Vierge là-bas. Ils avaient de la peine, bien sûr, mais aussi de la joie. Car ils se disaient, si nous offrons notre petite fille au bon Dieu, eh bien ce sera un beau cadeau que nous lui ferons. Le bon Dieu sera très content de cela. Il fera un grand plaisir. Et en effet, c'était un grand plaisir, ce sacrifice. Alors ils sont arrivés au temple de Jérusalem, ce grand temple. La Sainte Vierge a reçu la bénédiction de Saint Joachim et de Sainte Anne. Et puis elle est montée les escaliers, il y avait beaucoup de marches, elle montait les escaliers là. Puis au sommet des escaliers, il y avait le grand prêtre qui a accueilli la Sainte Vierge, il l'a bénie, il l'a offert dans le temple au bon Dieu. Et elle a quitté ses parents, elle est entrée dans le temple, dans les demeures du temple. Là, les petites filles étaient prises en charge par des personnes plus âgées qui vivaient là aussi depuis longtemps, qui vivaient toujours là. Elles recevaient l'instruction, elles apprenaient à connaître la Sainte Écriture. Elles apprenaient aussi à faire le ménage dans le temple, à réparer les habits des prêtres, les ornements pour le sacrifice. Il y avait toujours assez à faire. Alors elles étaient là au service du bon Dieu totalement. Elles étaient consacrées à Dieu. Ça veut dire qu'elles étaient réservées uniquement pour le service du bon Dieu, pour s'occuper des choses de Dieu. Alors la Sainte Vierge, ça lui a coûté aussi. Elle aimait beaucoup ses parents, mais elle aimait aussi plus le bon Dieu encore que ses parents. Alors, pour faire plaisir au bon Dieu, elle faisait volontiers, avec beaucoup d'amour. L'autre fois, nous avons eu la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que depuis l'âge de 3 ans, elle n'a jamais rien refusé au bon Dieu. Bien voyez, la Sainte Vierge est partie à l'âge de 3 ans au temple, pour faire plaisir au bon Dieu, pour faire la volonté du bon Dieu. Voilà la présentation de la Sainte Vierge au temple. Il y avait là au temple, donc comme je vous ai dit, d'autres personnes. Il y avait une qui s'appelait Anne, qui était prophétesse. Vous savez que Saint Joseph et la Sainte Vierge sont venus présenter l'enfant Jésus au temple. Il y avait le vieillard Siméon, mais il y avait aussi la prophétesse Anne. La prophétesse Anne était veuve et elle vivait tout le temps au temple. Elle s'occupait de tous. Alors quand la Sainte Vierge est venue présenter l'enfant Jésus, elle l'a reconnu. La prophétesse Anne, elle l'a reconnu. Ah, mais ça c'est la petite Marie qui était rentrée à l'âge de 3 ans au temple et qui a été admirable. Tout le monde a été contente d'elle parce qu'elle ne faisait aucun péché. Jamais une désobéissance. Au contraire, Quand elle était au temple et qu'elle voyait qu'elle pouvait rendre un service, tout de suite elle allait. Est-ce que je peux vous faire ça? Est-ce que je peux vous aider? Vous voyez, comme tout le monde était heureux, elle n'attendait pas qu'on lui demandait. Elle ne disait pas, oh, j'attends qu'on me demande. Non, non, elle allait. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que je peux vous aider? Et elle aidait partout où elle pouvait. Alors pensez bien, tout le monde l'aimait beaucoup. Elle était gentille avec tout le monde aussi. Jamais de chicane, jamais de mots grossiers. Toujours serviable. Voilà, et bien, la Sainte Vierge a été petite comme vous aussi. Alors demandez à la Sainte Vierge de vous apprendre à être comme elle, toujours serviable, toujours délicate, toujours gentille avec les autres, jamais méchante, jamais faire du tort aux autres, mais au contraire, toujours faire plaisir aux autres. Et puis demandez qu'elle vous aide toujours à faire la volonté du bon Dieu. Vous avez entendu dans l'évangile aujourd'hui ce qu'il a été dit. Il a été dit que Jésus était en train de parler aux foules, et il parlait si admirablement bien qu'une femme s'est écriée « Oh, mais qu'elle est heureuse, votre maman qui vous a eu, qu'elle est heureuse !» Eh bien, Jésus répond « Bien plus heureux sont ceux qui écoutent la parole du bon Dieu. » Mais pas seulement ça, mais qui la mettent en pratique. Sont encore plus heureux. Alors la Sainte Vierge était la maman de Jésus, elle était déjà heureuse pour ça, mais elle est encore plus heureuse parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et elle l'a mis en pratique. Demandez aujourd'hui cette grâce à la Sainte Vierge. Hein. Aujourd'hui, en fait, cet anniversaire où elle était entrée au temple pour rester totalement au bon Dieu. Demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous aide à être aussi totalement au bon Dieu, à faire tout par amour pour le bon Dieu, à imiter la Sainte Vierge dans toutes ses vertus d'obéissance, de gentillesse, de politesse, de bonté, de serviabilité. Hein. Puis aussi à Sainte Anne et à Saint Joachim. Pour eux, ça a été un sacrifice, ils l'ont fait volontiers. Demandez aussi qu'ils vous aident, qu'ils vous apprennent à faire des sacrifices par amour pour le bon Dieu. Alors n'oubliez pas que le sacrifice, c'est se priver de quelque chose que l'on aime beaucoup, mais faire cela par amour pour le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui une toute grande fête, oui, l'Annonciation. Vous avez fait attention à la lecture de l'Évangile qui nous raconte si beau récit. C'est Saint Luc qui nous raconte cela. Et comment Saint Luc connaissait-il tout cela? Eh bien, Saint Luc a beaucoup posé de questions à la Sainte Vierge. Il lui a demandé un peu comment tout s'était passé. Alors elle lui a raconté et il l'a mis par écrit dans son Évangile. C'est pour ça qu'on connaît tous ces détails, ce si merveilleux passage de l'Évangile. L'Annonciation, voilà. Dieu qui voyait que tous les hommes étaient perdus. Et oui, depuis le péché originel, tous les hommes étaient perdus. Plus personne ne pouvait entrer au ciel. C'était fini. Et puis les hommes faisaient beaucoup de péchés. Ils offensaient beaucoup le bon Dieu. Ils faisaient beaucoup de peine au bon Dieu. Qu'est-ce que nous aurions fait à la place du bon Dieu? On dit, ben, il faut les exterminer comme ça. Après c'est fini, on n'en parle plus. Ils nous font plus de misère. Eh bien non, ce n'est pas les pensées du bon Dieu. Le bon Dieu, il a une façon de faire bien différente de nous. Comme l'homme s'était révolté contre Dieu par l'orgueil, eh bien le bon Dieu a voulu lui trouver une solution la plus parfaite, la meilleure des solutions. Quelle est la meilleure solution? Eh bien, il décide de venir sur la terre pour nous sauver. Au lieu de nous abandonner, de dire, bon, tant pis, qu'il se débrouille, je m'en occupe plus de... Non, il vient sur la terre pour nous sauver. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, voyez, il a choisi cette grande vertu d'humilité. D'abord, il a cherché sur la terre la personne qui était la plus humble. Et qui était cette personne qui était la plus humble? La Sainte Vierge. Il n'y avait personne qui pouvait être aussi humble que la Sainte Vierge. Alors, le bon Dieu a choisi la Sainte Vierge. Une fois qu'il a trouvé la Sainte Vierge, il l'a préparée, il lui a donné de belles qualités, et surtout cette vertu d'humilité, la vertu de pureté. Et il a envoyé son ange, son messager, l'ange qui s'appelait Gabriel. Vous savez que les anges sont au service du bon Dieu. Il y a là des quantités et des quantités. Et tous rendent service au bon Dieu. Alors ils font différentes choses. Et entre autres, Gabriel a été envoyé pour être le messager. Il alla dans une petite ville de Nazareth. Nazareth, c'était en Galilée, un peu au nord de la Palestine, c'est tout un petit village où habitait la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'elle faisait là, la Sainte Vierge? Eh bien, la Sainte Vierge était mariée avec Saint Joseph, mais elle aimait tellement le bon Dieu, elle lisait beaucoup la Sainte Écriture, tout ce qui était du bon Dieu, elle lisait, elle s'en pénétrait, elle se nourrissait. Elle lisait beaucoup la Bible parce qu'elle se disait, la Bible, c'est les lettres du bon Dieu. Le bon Dieu nous a envoyé des lettres, et bien, dans ces lettres, il nous lit des choses très intéressantes, très intéressantes. Alors elle aimait à lire la Bible, à méditer, elle y pensait souvent. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Du temps de la Sainte Vierge, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a encore tout le Nouveau Testament en plus qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Mais il y avait déjà énormément de choses et il y avait beaucoup de prophéties. Et comme elle était très très intelligente, la Sainte Vierge, parce qu'elle n'avait pas eu le péché originel. Alors elle avait une intelligence remarquable. Nous, on a toujours de la peine à apprendre les choses que l'on doit étudier. On a toujours un peu de peine. Mais la Sainte Vierge n'avait pas de peine, puisqu'elle n'avait pas le péché originel. Alors elle connaissait très bien Sainte Écriture, elle connaissait les prophéties. Et elle savait que, ça y est, c'était le moment où le bon Dieu allait envoyer le Messie, tant attendu, depuis longtemps annoncé. Elle savait, mais elle ne savait pas qui est-ce qui allait être la maman de ce Messie. Alors elle se disait, au fond de son cœur, « Oh, c'est bientôt le moment. Si le bon Dieu pouvait me faire connaître qui c'est qui serait la maman de ce Messie, j'irai tout de suite auprès d'elle pour m'offrir et offrir des services, pour rendre service, faire la vaisselle, faire le ménage, tout ça, pour qu'elle puisse s'occuper de ce Messie. » Et voilà qu'elle était tout en train de penser à ça, de lire la Sainte Écriture, que l'ange Gabriel arrive chez elle. Il la salue, vous connaissez cette belle prière que vous dites si souvent. C'est là qu'il l'a adressée de la part de Dieu. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Eh bien, chaque fois que vous dites ces paroles, vous donnez une grande joie à la Sainte Vierge parce que vous lui rappelez lorsque l'ange est venu lui adresser cette salutation. C'était un des grands moments de la Sainte Vierge. Eh bien, chaque fois que vous dites « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », vous prononcez les paroles que l'ange lui a adressées. Et elle a chaque fois une grande joie. C'est pour ça que le « Je vous salue, Marie » est une grande prière, puisque vous rappelez les paroles que l'ange a adressées à la Sainte Vierge de la part du bon Dieu, les paroles qui viennent du bon Dieu. Et ça l'est que nous dit, la Sainte Vierge se troubla. Oh, elle se troubla, pourquoi? Pourquoi elle se troubla de ce que lui a adressé ces paroles? Eh bien, parce que la Sainte Vierge était tellement humble que quand elle a entendu ces paroles, qui étaient des louanges, l'ange faisait des louanges à la Sainte Vierge. Alors elle s'est dit, oh, qu'est-ce que ça signifie? Il faut se méfier. Quand quelqu'un nous fait des louanges, il faut toujours se méfier. Parce qu'il peut y avoir un piège là derrière. Il faut toujours se méfier. Des fois, c'est pour nous attraper mieux. Alors la Sainte Vierge s'est méfiée. Elle était tellement humble qu'elle pensait qu'à Dieu. Elle admirait Dieu de tous ses bienfaits, de toutes ses merveilles. Elle s'était rendue compte, elle se rendait très bien compte, que tout ce qu'elle était, elle, ça venait du bon Dieu. Si elle avait une intelligence, si elle avait des qualités, elle savait que tout cela venait du bon Dieu. Qu'elle n'était pour rien. C'était le bon Dieu qui l'avait comblée de bienfaits, elle le savait. Alors elle était tellement reconnaissante envers le bon Dieu, tellement pleine du bon Dieu, qu'elle s'oubliait bien souvent pour ne penser qu'au bon Dieu. Et voilà que l'ange vient lui faire des louanges. Alors elle avait l'habitude de dire, mais c'est pas à moi que les louanges doivent être faites. Les louanges doivent être faites au bon Dieu, puisque tout ce qui est bien en nous vient du bon Dieu. Alors, c'est pas normal qu'il fasse des louanges, parce qu'elle ne savait pas d'abord qui c'était, hein, parce que vous savez que le diable, des fois, il se présente sous les formes de l'ange, d'un ange, hein, pour mieux nous attraper. Alors elle s'est dit, qui c'est celui-là? Est-ce que c'est un bon ange? Est-ce que c'est un mauvais ange? Elle était un petit peu troublée. Et l'ange, quand il a vu qu'elle était troublée, lui a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas, Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Le bon Dieu vous a choisi pour être la mère du Messie. Elle qui attendait, qui aurait voulu savoir qui était la mère du Messie, voilà que l'ange lui dit qu'elle serait, elle, la mère du Messie, qu'elle avait été choisie par Dieu. Alors, elle se dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque j'ai fait un vœu, j'ai fait le vœu de virginité, alors je ne peux pas devenir mère. Comment cela se fera-t-il? Alors l'ange la tranquillise et lui dit, ne crains pas, le bon Dieu s'occupera de cela, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, il suffit que tu dises oui. C'était un grand moment, cela. Si la Sainte Vierge avait dit non, qu'est-ce qui se serait passé? Une catastrophe. Le bon Dieu ne serait pas venu sur la terre. Jésus ne serait pas venu sur la terre. Et alors, on n'aurait pas été sauvés. Mais voilà, la Sainte Vierge, qui aimait tellement le bon Dieu, elle ne voulait qu'une chose, toujours faire plaisir au bon Dieu. Toujours faire ce que le bon Dieu voulait. C'était son seul désir, Et voilà que l'ange lui fait connaître quelle était la volonté du bon Dieu. Alain s'y dit, bien sûr, je suis la servante du Seigneur. Quelle belle réponse, voyez. Voilà que l'ange lui dit, elle serait la mère de Dieu. C'était un beau titre, un noble titre. Oh, ce n'est pas rien d'être la mère de Dieu. Eh bien, elle dit comme réponse, je suis la servante du Seigneur. Elle était toujours très humble, la Sainte Vierge. Elle était vraiment profondément humble. Elle ne s'est pas laissée attraper par l'orgueil. Le diable n'a pas pu la voir. Alors elle a donné cette réponse. Eh bien, nous devons être pleins de reconnaissance aujourd'hui. Grâce au oui de la Sainte Vierge, Jésus s'est incarné et il nous sauvera. Voyez comme quoi nous devons aimer beaucoup la Sainte Vierge. Elle aurait très bien pu dire non, parce qu'elle savait très bien qu'en devenant la mère de Dieu, ce ne serait pas la vie de château, hein, mais qu'elle allait beaucoup souffrir. En devenant la mère du bon Dieu, elle allait beaucoup souffrir. En faisant la volonté du bon Dieu, eh bien, on doit prendre la croix. Elle savait cela, connaissant les Écritures. Mais elle se dit, eh bien, si c'est le bon Dieu qui veut, moi je le veux toujours. Même si ça coûte cher, même si c'est pénible, même si je dois souffrir, ça ne fait rien. Elle a accepté. Alors, il faut que nous soyons pleins de reconnaissance envers la Sainte Vierge, d'avoir accepté, d'avoir dit oui. Et chaque fois que vous direz le je vous salue Marie, vous penserez aux paroles que l'ange a adressées à la Sainte Vierge et qui a donné une grande joie à la Sainte Vierge. C'est là qu'a commencé l'œuvre de notre rédemption. En ce jour-là, le 25 mars, où le Verbe de Dieu s'est incarné. Et regardez aussi l'humilité du Verbe de Dieu, de l'humilité du Fils de Dieu. Il aurait pu venir comme un grand roi sur la terre, puisqu'il est le Tout-Puissant, il est le Dieu. Vous savez, quand il a parlé sur le mont Sinaï, les Juifs qui étaient là au pied du Sinaï ont été effrayés de l'entendre parler. Il y avait un tremblement de terre, il y avait un tonnerre, il y avait des éclairs. Ils ont été si effrayés qu'ils ont dit à Moïse, « Allez-vous sur la montagne parler avec le bon Dieu. Nous, on est tellement effrayés qu'on a failli mourir de peur. » Elle aurait pu venir comme ça sur la terre, comme un grand roi. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il a voulu venir. Il est venu dans la condition humble, tout humble. Pourquoi ? Pour guérir du péché d'orgueil. Voilà, il y a toujours en nous cet orgueil qui ressort de temps en temps. Alors il nous faut toujours nous guérir de cet orgueil et prendre l'exemple que le bon Dieu nous donne. Déjà, il choisit une maman très humble, très très humble. Et puis lui-même, il s'humilie en se faisant tout petit, petit enfant. Voilà, pour nous guérir de l'orgueil, pour nous montrer qu'il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Au contraire, il faut se prendre pour ce que l'on est. Alors aujourd'hui, il faut que nous soyons pleins de joie pour cette belle fête de l'Annonciation et que nous sachions remercier la Sainte Vierge. Nous allons spécialement, pendant cette messe, offrir ce saint sacrifice pour remercier. Remercier le bon Dieu d'avoir voulu s'incarner, d'avoir choisi la Sainte Vierge. Et puis aussi, nous allons remercier tout spécialement la Sainte Vierge, d'avoir dit oui, d'avoir accepté de devenir la mère de Dieu, d'avoir accepté, et ainsi, par son acceptation, le Fils de Dieu est devenu homme, et il nous sauvera. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oh, si vous saviez combien la messe procure de gloire au bon Dieu. Combien la messe est agréable au bon Dieu. Si vous saviez cela, vous ne manqueriez jamais d'assister à la messe. Jamais. Au contraire, vous ne compteriez pas vos efforts pour y assister. La messe procure une grande gloire à Dieu. Bien sûr, non pas une gloire essentielle, puisqu'on ne peut pas augmenter la gloire essentielle de Dieu, mais une gloire secondaire, une gloire par rapport à la création, par rapport aux œuvres extérieures à Dieu. Mais la messe aussi augmente notre mérite et notre gloire dans le ciel. Chaque messe que vous entendez avec dévotion, vous augmentez votre gloire dans le ciel. Votre place au ciel sera toujours plus belle. Si on peut prendre une image, celle de l'échelle convient bien. Chaque messe que vous assistez avec dévotion, c'est comme si vous montez un échelon. Peut-être des fois deux échelons si vous avez assisté avec beaucoup de ferveur. Ou des fois trois échelons. Et chaque fois, vous rapproche du bon Dieu et vous met à un degré plus élevé vers le bon Dieu. Et quand viendra votre mort, eh bien, vous serez aussi près du bon Dieu que vous êtes monté sur l'échelle. Saint Paul nous dit que le temps qu'on passe sur la terre est très court. Oh, pour nous, ça nous paraît long, 20 ans, 30 ans, 40 ans, selon. ça paraît long, mais à côté de l'éternité, ça paraît très très court. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à vos parents et aux personnes âgées, si vous leur demandez est-ce que la vie elle est longue, ils vous diront « Oh, elle va trop vite, on ne voit plus passer le temps ». Et vous le direz plus tard la même chose. Vous avez fait attention aujourd'hui dans l'Épître, saint Paul nous dit qu'il est monté au troisième ciel. Vous savez qu'au ciel, il y a des degrés, hein, plus ou moins près du bon Dieu. Eh bien, saint Paul est monté au troisième ciel. Et il dit, c'est tellement beau au ciel que on ne peut pas expliquer ce que l'on peut voir là-haut. C'est tellement beau. L'œil de l'homme n'a jamais pu voir des choses si belles. L'oreille de l'homme n'a jamais entendu de si beaux cantiques, de si belles choses. Et on ne peut pas parler du ciel tellement c'est beau. Voilà ce que réserve le bon Dieu pour ceux qui vont aller au ciel. Eh bien, un jour, il y avait un paysan que sa maman avait bien formé, et quand il était petit comme vous, il avait pris la résolution d'aller tous les jours à la messe. Alors lui, il allait tous les jours, tous les matins. À ce moment-là, il y avait la messe beaucoup le matin. Ensuite, il allait travailler au champ, il allait travailler à la campagne. Et alors des fois, il devait se lever de bonne heure l'été, quand les travaux des champs commencent plus tôt, alors il partait au champ. Quand il entendait sonner le clocher du village, il abandonnait ses travaux et il allait à la messe. Ah, il aimait tellement aller à la messe, il aimait tellement bon Dieu, il savait que par la messe, on faisait un grand plaisir au bon Dieu. Alors il s'est dit, bien moi je veux faire plaisir au bon Dieu. Il nous donne ses récoltes, il nous donne la santé, il fait tant de belles choses pour nous, moi je veux aussi faire quelque chose pour le bon Dieu. Alors il allait à la messe tous les matins. Toute sa vie, qu'il était au champ ou n'importe, puis il est devenu vieux, fatigué, il ne pouvait plus marcher comme avant. Et quelquefois il s'est dit, ah, maintenant, ça devient difficile d'aller tous les jours à la messe quand je suis au champ. C'était pénible les travaux des champs. Alors, encore aller laisser ces travaux, aller à la messe, j'ai plus tellement la force. Moi, je crois que je vais arrêter. Alors un jour, il était au champ, puis il faisait mauvais temps. La terre, elle était toute mouillée. Il avait les souliers pleins de terre, et puis il pleuvait encore un peu. Puis il avait entendu sonner le clocher. Alors il s'est dit, je vais encore à la messe, mais cette fois-ci, je crois que ce sera bien la dernière fois. Après, j'irai à la messe que si je suis vers la maison. C'est moins loin. Mais là, c'est trop loin depuis les champs. Il fallait marcher longtemps. Tout en marchant, tout en réfléchissant, tout en priant un peu, en se préparant à la messe, il entend un bruit derrière lui. Alors il se retourne et il voit un être tout brillant. Alors il croit que c'est le bon Dieu. Oh mon Dieu, dit-il. Et il se met à genoux. Mon Dieu. Pas le bon Dieu, c'était son ange gardien. Il a dit, non, je ne suis pas le bon Dieu. Je suis ton ange gardien. Oh mais alors, pourquoi vous êtes venu vers moi, mon ange? Pourquoi j'ai la grâce de pouvoir vous voir? Alors l'ange lui dit, Dieu m'a ordonné de te suivre chaque fois que tu quittes tes champs pour te rendre à la messe. Eh bien, autant tu fais de pas vers l'église, autant de roses s'épanouissent. Pour chaque pas qu'il faisait, il y avait une rose qui sortait de la terre. Et l'ange passait derrière et il cueillait toutes ces roses. Il mettait dans un sac, puis il disait, bien voilà, tous les pas que tu as faits pour aller à la messe, c'était autant de fois des roses que j'ai cueillies pour le ciel. Alors il fut tellement consolé, tellement content de cette vision, mais l'ange lui dit, eh bien, persévère jusqu'à la mort, continue. Tout cela, c'est pour l'éternité, un jour, c'est fini cette vie. Mais tout cela, tu vas en profiter pendant toute l'éternité. L'ange disparut et le brave paysan, qui était déjà vieux, il se met à baiser l'endroit où l'ange était apparu. Plein de larmes et de joie, il continua à aller à la messe tous les jours, jusqu'à la mort. Et peu de temps après, le bon Dieu l'a rappelé à lui. Alors il est parti avec un grand désir d'aller au ciel, d'aller voir le bon Dieu qu'il aimait tant, tant honoré sur la terre. Alors retenez ça, si vous saviez combien la messe fait plaisir au bon Dieu. Mais bien sûr, la messe, bien entendu, avec dévotion, en priant, en suivant les prières, en pensant à ce qui se passe, à Dieu qui s'offre sur l'autel, en sacrifice. Pensez bien à cela. L'ange derrière vous et il cueille ses roses. Alors vous demanderez à la Sainte Vierge, demandez à Notre-Dame de vous aider. Demandons tous de nous aider à comprendre, à aimer la messe comme ce paysan, et comme le saint Isidore dont nous avons parlé l'autre fois, ce brave laboureur, combien ils aimaient le bon Dieu, combien ils aimaient la messe, parce qu'ils savaient que la messe, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire au bon Dieu. Alors vous demanderez à la Sainte Vierge que nous obtienne la grâce, comme à ce paysan et à ce saint Isidore, d'aimer la messe, d'aimer le bon Dieu et d'y assister le plus souvent possible avec dévotion, avec beaucoup de dévotion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier, nous avions une grande et belle fête, la fête de Saint-Joseph. Vous me direz, mais nous avons fêté Saint-Joseph le 19 mars. Et encore hier, la fête de Saint-Joseph. Oui, hier, c'était la fête de Saint-Joseph, cependant, comme artisan, comme patron de tous ceux qui travaillent. Mais avec hier, nous sommes entrés dans un mois, le mois de mai, que l'on appelle aussi le mois de Marie. Et ça convient très bien de consacrer le mois de mai à la Sainte Vierge. Car le mois de mai, tout est en fleurs, les champs, les arbres, c'est le printemps, la vie reprend, tout s'ouvre, tout s'éclot, et on va vers la période qu'on appelle l'été et l'automne, où nous cueillerons les fruits que ces fleurs auront portés. Eh bien, ça convient bien à la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge est comparée à une fleur. Vous savez que la fleur des arbres produit des fruits. Hein ? Les abricotiers ont été en fleurs, et plus tard, ils ont donné ces beaux fruits. Les pommiers aussi, les poiriers aussi. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est comme la fleur qui va nous donner un fruit merveilleux, qui est Jésus. Jésus est venu de la Sainte Vierge et ce sera notre Sauveur. Alors, ça convient tout à fait de consacrer le mois de mai, le mois de printemps, le mois des fleurs, à la Sainte Vierge. Pourquoi consacrons-nous aussi le mois de mai à la Sainte Vierge? Eh bien, pour augmenter en nous la dévotion envers la Sainte Vierge. Il faut que nous ayons de la dévotion à la Sainte Vierge. Mais qu'est-ce que c'est que la dévotion? Ça veut dire quoi, avoir de la dévotion à la Sainte Vierge? Il faut d'abord avoir un grand respect, une grande vénération envers la Sainte Vierge. Pourquoi? Eh bien, parce que la Sainte Vierge a été élevée à être la mère de Dieu, la maman de Dieu. C'est une créature comme nous, mais bien sûr, qui a eu un privilège, qui n'a pas eu le péché originel. Vous savez que tous ceux qui naissent avec le péché originel n'est pas la Sainte Vierge. Elle était comme Ève avant le péché originel, et elle a été donc élevée à la dignité de mère de Dieu. C'est pour ça que nous devons beaucoup la respecter. Si vous avez un grand bienfaiteur qui pense, vous aurez du respect, ou bien plus, pour la Sainte Vierge, il faut avoir du respect. C'est la mère de Dieu. Ça, c'est la première marque de la dévotion. La deuxième marque de la dévotion, c'est la confiance. Ayons confiance en la Sainte Vierge parce qu'elle est très bonne. Et non seulement elle est très bonne, mais elle est puissante. Elle peut beaucoup. Le bon Dieu lui a confié tous les trésors de la grâce. Et d'ailleurs, le bon Dieu, pour que nous ayons une grande dévotion à la Sainte Vierge, ne veut pas nous donner des grâces sans que nous passions par la Sainte Vierge. Il pourrait nous donner les grâces, mais il ne veut pas. Il veut qu'on obtienne ces grâces par la Sainte Vierge pour justement nous faire honorer la Sainte Vierge. Lui, il aime beaucoup sa maman et il veut que nous l'aimions beaucoup. Voilà, ce sera le deuxième point de la dévotion. Premier point, respecter la Sainte Vierge parce qu'elle est la mère de Dieu. Deuxième point de la dévotion, avoir confiance en elle. Elle est puissante et elle est bonne. Vous savez ce qu'une maman fait pour ses enfants, hein, quand les petits, ils pleurent la nuit parce qu'il y a les dents qui percent. Et il pleure et crie, la maman qui est fatiguée, ben se lève. Elle va voir le petit. Elle va essayer de lui trouver quelque chose pour calmer ses douleurs. Elle fera pour son enfant tout ce qu'il aura besoin. Et alors la Sainte Vierge, vous croyez qu'elle ferait moins? Au contraire, hein, elle fait encore davantage. Et si nous savions combien la Sainte Vierge nous aime, eh bien alors nous ne pourrions plus ne pas l'aimer. Le troisième point de la dévotion, c'est d'aimer la Sainte Vierge. Voilà, aimons-la. Les saints ont une grande dévotion à la Sainte Vierge. Ils l'ont beaucoup aimée. Et beaucoup qui sont au ciel maintenant sont au ciel grâce à la Sainte Vierge. Il y avait dans une ville un curé. Un jour on vient l'appeler, monsieur le curé, il y a une malade dans telle rue au numéro 70. Voilà, le prêtre il a pris l'adresse, noté le numéro comme il faut, le nom de la personne, et il part avec la communion pour porter la communion auprès de la malade. Il arrive à la maison, dans une maison, il frappe, on vient l'ouvrir, il dit voilà, eh bien, je viens trouver la malade, je viens porter la communion. Mais ici, il n'y a pas de malade ici. Mais vous êtes bien sûr? Chez nous, en tout cas, il n'y a pas. Ah, tu vois, oui, il y a peut-être une. C'est peut-être possible. Oui, il y a une malade là-haut dans la chambre, tout en haut. Allez voir. Le prêtre monte, il frappe. Tout d'un coup, on entend une voix
énervé dans la maison. Qui c'est qui vient encore déranger à cette heure-ci? Alors il vient, il ouvre la porte. Ouf, quand il voit le curé, il commence à crier des vilains mots. Allez-vous-en! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez-vous-en! On n'aime pas les prêtres ici. Et le prêtre est trop surpris. Qu'est-ce qui se passe? On m'a pourtant appelé. Il a pu apercevoir au fond de la pièce, au fond de la chambre, sur le lit, il y avait une dame qui était mourante, qui disait « Monsieur le curé, venez, ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. » Et le monsieur furieux « Allez-vous-en! Moi, je suis un libre penseur et je veux rien savoir de ça. Et vous ne viendrez pas dans mon appartement. » Alors le curé s'est dit « Ah ben, je vais quand même essayer. » Il a fait une prière à la Sainte Vierge pour Notre-Dame, faites que je puisse entrer dans cette maison. Alors au bout d'un moment, il a répondu à ce monsieur « Si vous êtes libre penseur, vous devez respecter la liberté des autres. » Et puis il est rentré dedans, il a poussé le monsieur de côté. Le monsieur était surpris, il est entré. Puis elle a dit « Oh, monsieur le curé, merci d'avoir résisté, merci d'être entré. Vous savez, je suis mourante et je voudrais tant recevoir les sacrements. Je voudrais tant me confesser avant de mourir. » Alors le curé a fait sortir le monsieur, il a dit « Maintenant, sortez de la pièce, là, hein. Je ne sais plus trop quoi faire, il est parti. » Alors il a confessé. Puis il a dit « Mais comment vous avez pu me faire appeler? Comment ça se fait que vous avez pu me dire à quelqu'un de venir m'appeler alors que votre mari est tellement contre? Mais monsieur le curé, mais je ne vous ai pas fait appeler. Comment vous ne m'avez pas fait appeler? Mais vous êtes bien ici, telle personne au numéro 70 ?»« Ah non, ici c'est le numéro 30. » Voyez, il s'était trompé de numéro, mais le bon Dieu avait permis, la Sainte Vierge avait permis qu'il s'était trompé de numéro de maison parce que cette personne avait supplié la Sainte Vierge de ne pas la laisser mourir. Alors le curé dit bien, comment vous avez fait pour que je sois arrivé aujourd'hui là? Elle dit bien, vous savez, j'ai prié toute ma vie. J'ai prié un Je vous salue Marie chaque jour pour pas que je meure sans les sacrements. Et mon mari n'a jamais laissé aller à la messe. Il n'a jamais laissé venir le prêtre ici. Il s'est toujours opposé et je ne pouvais rien faire d'autre. Vous voyez comment la Sainte Vierge, elle est bonne. Elle exauce les prières qu'on lui fait. Elle priait bien sûr beaucoup, mais chaque jour, elle faisait en tout cas un Je vous salue Marie, spécialement pour ne pas mourir sans les sacrements. Pour mourir sans les sacrements, c'est risqué l'enfer. Vous voyez comme la Sainte Vierge est bonne. Donc aimez bien la Sainte Vierge. Et pendant ce mois de Marie, eh bien, vous ferez quelque chose de spécial pour la Sainte Vierge. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh, moi je vous conseille plusieurs choses. Entre autres, si vous pouvez venir assister souvent à la messe. Pourquoi? Eh bien, pour remercier le bon Dieu. Pour remercier la Trinité de nous avoir donné la Sainte Vierge, la si bonne Sainte Vierge. Beaucoup sont au ciel parce qu'ils ont aimé la Sainte Vierge, parce qu'ils ont prié à la Sainte Vierge. Oh, je pourrais vous raconter bien d'autres histoires, mais ça prendrait bien du temps. Cependant, voyez, ayez confiance, aimez-la, elle est puissante, elle vous aime et elle vous veut un jour au ciel. Aussi, ce que vous pouvez faire pour faire plaisir à la Sainte Vierge, eh bien, sachez que chaque « Je vous salue Marie » que vous dites avec ferveur, c'est une rose que vous offrez à la Sainte Vierge. Quand ce sera la fête des mamans, qu'est-ce que vous ferez la fête des mamans? Vous allez offrir un bouquet de fleurs. Vous allez faire des dessins, vous allez lui offrir quelque chose qui lui fait plaisir. Eh bien voilà, à la Sainte Vierge, vous pouvez aussi offrir quelque chose qui lui fait plaisir. Un jour, il y avait une religieuse, une sainte religieuse, qui voyait souvent le bon Dieu, qui voyait souvent la Sainte Vierge ou Jésus. Et un jour, c'était la fête du rosaire. Alors les gens avaient beaucoup prié, la Sainte Vierge, ce jour-là, ils avaient prié le rosaire. Eh bien, pendant ce temps, cette religieuse a vu des quantités de bouquets de roses que l'on offrait à la Sainte Vierge, des belles roses fraîches et parfumées. Et elle était très contente. C'était tout autant de roses, et il y avait tout autant de roses que de « Je vous salue Marie » que les gens avaient prié. Mais elle avait vu aussi quelques bouquets de roses fanées. Alors elle s'était demandé, mais pourquoi ces roses fanées? Et elle avait compris que c'était les « Je vous salue Marie » que l'on avait récité sans ferveur, distrait. Alors voilà, encore une occasion de faire plaisir à la Sainte Vierge. De dire des « Je vous salue Marie ». Par exemple, pendant la journée, vous êtes sur le chemin de l'école, au lieu de regarder à droite, à gauche, puis de n'importe quoi, faire n'importe quoi, dites quelques « Je vous salue Marie », des jolis. Voilà. Saint Bernard aimait beaucoup, quand il passait devant une statue de la Vierge, il disait toujours « Je vous salue Marie ». Il l'a salué avec beaucoup de respect. Puis un jour, il a entendu que la Sainte Vierge lui a dit « Je te salue Bernard ». Vous voyez, tellement elle était contente de ces salutations. Voilà, eh bien, vous aussi, pendant ce mois de Marie, faites quelque chose pour la Sainte Vierge. Ou bien apportez des fleurs au statut de la Vierge. Vous avez tous une statue de la Sainte Vierge à la maison. Eh bien, mettez des fleurs. Souvent, dès qu'elle commence à faner, enlevez-les, mettez des nouvelles fleurs. Même aller chercher des fleurs dans les champs, des jolies fleurs. On peut faire des très beaux bouquets. Faites ça pour la Sainte Vierge. Il y avait un monsieur qui ne priait pas, qui n'aimait pas le bon Dieu, n'allait jamais à la messe, et puis il allait travailler dans les bois. Et souvent, il passait devant une petite oratoire de la Sainte Vierge. Et chaque fois qu'il passait devant, il ramassait quelques fleurs, puis il mettait devant la Sainte Vierge. C'est tout. Tout ce qu'il faisait. Même pas une prière. Il mettait ça devant la Sainte Vierge. Et puis, il continuait son chemin. Mais il ne pratiquait pas, il ne s'occupait pas du bon Dieu. Eh bien, il a réussi à faire encore une bonne mort. Parce que cela, ça avait tellement fait plaisir à la Sainte Vierge qu'elle lui a obtenu la grâce de faire une bonne mort. Voyez ? Comme elle est touchée même par les petites fleurs qu'on met devant la statue de la Vierge. Eh bien, à la maison, faites ça. Pendant ce mois de Marie, c'est vous qui allez vous occuper d'orner la Sainte Vierge. Allez chercher des fleurs, des belles petites fleurs, avec toutes sortes de toutes couleurs. Mettez devant la Sainte Vierge. Elle sera très contente et elle vous obtiendra des grâces. Celui qui aime la Sainte Vierge, celui qui sert avec beaucoup de dévotion la Sainte Vierge, n'ira jamais en enfer. Comprenez, retenez ça. Le serviteur de Marie ne se damnera jamais. Mais il faut être serviteur de Marie. Il faut... Alors offrez-lui des bouquets de fleurs spirituels, et je vous salue Marie avec ferveur, ou des petites fleurs que vous irez dans chercher dans les champs, que vous mettrez devant la Sainte Vierge. Voilà, faites cela, priez-la, allez à la messe aussi souvent que possible pour remercier Dieu de nous avoir donné la Sainte Vierge. Demandons-lui des grâces aujourd'hui de bien passer, de bien sanctifier ce mois de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans à peu près 10 jours, il y aura une grande fête que vous savez et pour laquelle vous vous êtes préparé, la fête de Pâques. Eh bien, la fête de Pâques, c'est la plus grande fête de toute l'année. Il y a une autre grande fête, c'est Noël. Cependant, Pâques est plus important. Et si l'on vous demandait, mais qu'est-ce que c'est que la fête de Pâques? Vous ne répondrez pas, c'est les lapins de Pâques. Hein? Ou les œufs en chocolat. Non, la fête de Pâques, vous le savez, pour l'avoir appris, c'est Jésus qui est ressuscité. Mais si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est mort. Car il n'y a que les morts qui peuvent ressusciter. Ceux qui sont vivants ne peuvent pas ressusciter, ils sont déjà vivants. Alors avant de célébrer la fête de Pâques, eh bien, nous allons repasser la passion de Jésus. Dans l'évangile, on voit que les pharisiens voulaient tuer Jésus, ils étaient jaloux, ils ne l'aimaient pas, et ils voulaient le lapider. Lapider, c'est-à-dire tuer quelqu'un avec des pierres, on lui lançait des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Et Jésus a pu échapper plusieurs fois, et il disait « Mon heure n'est pas encore venue ». Toute la vie de Jésus tendait vers cette heure, vers cette passion. Saint Augustin, c'était un père de l'Église, un grand père de l'Église, il disait « Une larme que l'on verse en méditant la passion de Jésus nous vaut beaucoup plus que d'aller à pied jusqu'à Jérusalem et de revenir, et puis de jeûner toute une année au pain et à l'eau. Ne manger pendant qu'une année du pain et de l'eau. Rien qu'une larme que l'on verserait en méditant la passion vaut plus que tout cela. Pour aller à Jérusalem à pied, aller-retour, il faut plusieurs années. Vous pouvez vous rendre compte que l'effort cela demande. Eh bien, de méditer la passion de Jésus, ça vaut plus que cela. Pourquoi? Eh bien, parce que dans cette passion de Jésus, on trouve tous les trésors de la grâce. En méditant la passion, on découvre combien Dieu nous aime. Une petite image qui peut nous aider à comprendre un peu ce qui s'est passé dans la passion. Voilà qu'il y a un grand prince, très riche, qui a un fils unique, qu'il aime beaucoup. Il aime de tout son cœur ce fils. Et puis ce prince avait beaucoup de serviteurs pour cultiver ses terres. Et un jour, un des serviteurs a commis un grand crime, a offensé gravement le grand prince. Alors, il le fait venir, il le juge et il le condamne à mort. Et cet esclave, ce serviteur, était très aimé
du fils de ce prince. Alors le fils de ce prince vient voir son père et lui dit, eh bien, je viens moi me présenter pour être tué à la place de cet esclave, à la place de ce serviteur. Eh bien, c'est ça. Par les péchés, nous avons offensé le bon Dieu, tous. Et les péchés nous méritent une punition très grave. Les péchés mortels nous méritent l'enfer. L'enfer pendant l'éternité. Et il n'y a plus moyen. Même si vous priez le bon Dieu, délivrez-moi, tout cela. S'il n'y a pas Jésus qui vient, vous ne pouvez rien faire. Nous tombons en enfer. On ne peut rien faire. Et alors Jésus a dit à son père, eh bien, je viendrai moi pour être puni à la place des hommes. Voilà ce qu'a fait Jésus. Il a voulu être puni à notre place pour pas que nous soyons punis, nous, et que nous tombions en enfer. Voilà ce qu'a fait Jésus dans sa passion. Un Dieu qui meurt pour nous. Est-ce qu'on peut se rendre compte? Un Dieu qui meurt pour nous. Pourtant, Jésus aurait pu très bien éviter la passion. Quand il était jugé, ou bien quand les soldats frappaient sur lui, il aurait très bien dit une parole. Et puis tous ces soldats auraient été paralysés. La parole de Jésus est très puissante. Vous vous rappelez, sur la mer de Galilée, lorsque il y avait une grande tempête, terrible tempête, les apôtres croyaient qu'ils allaient être engloutis dans les flots. Il a dit deux paroles et tout s'est calmé. Le vent a cessé, l'eau s'est apaisée et il n'y a plus rien eu. Rien que la parole de Jésus était puissante. Il aurait très bien pu faire la même chose. Puis les soldats auraient été paralysés, n'auraient pas pu continuer. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas voulu empêcher les soldats de lui faire mal, de le flageller, de le couronner d'épines, de le clouer sur la croix? Parce qu'il nous aime, parce qu'il a voulu être puni à notre place. Voilà. Il y avait dans un monastère un frère qui ne savait pas lire. Il n'avait jamais appris à lire. Alors les autres frères lui ont dit, « Eh bien, nous allons t'apprendre à lire. Tu sais, il y a des choses très belles dans les livres. » Il faudrait que tu saches lire pour que tu puisses découvrir tout cela. Alors on va t'apprendre à lire. Mais lui, il avait l'habitude d'aller voir le crucifix. Alors il est allé dans sa cellule, dans sa chambre. Il s'est mis à genoux, il a regardé le crucifix. Et Jésus lui a dit, tu sais, le meilleur livre de tous les livres, c'est la croix, c'est le crucifix. Tu apprendras beaucoup plus sur la croix que dans tous les livres. Alors il a continué à regarder la croix. La croix nous parle, Jésus pendu à la croix nous parle. Il nous montre combien il nous aime. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien nous devons l'aimer. Ne plus l'offenser. Vous savez que les péchés que vous faites quand vous désobéissez, quand vous êtes méchant avec les autres, c'est avec Jésus que vous êtes méchant. S'il n'y avait pas eu de péché, Jésus ne serait pas mort, il n'aurait pas été flagellé, il n'aurait pas été couronné d'épines. Alors tous les péchés que vous faites, vous faites souffrir Jésus. Alors voilà, faites un effort de ne plus offenser Jésus. Oui. Demandez-lui la grâce de ne plus faire de péché, pour ne plus le flageller, ne plus le couronner d'épines, ne plus le planter des épines dans sa tête. Demandez la grâce à Jésus de pouvoir vraiment toujours lui faire plaisir maintenant, le consoler. Il y en a d'autres qui pêchent, qui font des péchés et qui flagellent Jésus. Alors demandez-lui cette grâce. Et puis, pensez bien que toute cette passion que Jésus a endurée, eh bien, elle se réalise chaque fois sur l'autel. À chaque messe, Jésus renouvelle sa passion pour vous qui êtes ici, parce qu'il vous aime. Alors demandez-lui la grâce, voyez, de comprendre combien Jésus a souffert pour vous, de comprendre combien Jésus vous aime, et la grâce aussi de ne plus jamais l'offenser. Qu'il fasse grandir en vous l'amour pour lui, de façon à toujours lui faire plaisir dans tout ce que vous faites. Voilà. Et pensez bien, tout ce que vous faites aux autres, eh bien c'est à Jésus que vous le faites. Si vous faites plaisir aux autres, si vous êtes gentil, si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, c'est à Jésus que vous le faites. Mais le contraire aussi. Voilà. Alors demandez à la Sainte Vierge, elle était au pied de la croix, le Vendredi Saint, et elle est toujours là, quand la messe est célébrée, la Sainte Vierge est présente aussi, à côté de l'autel, comme elle était au pied de la croix, le Vendredi Saint, où Jésus a été cloué sur cette croix. demandez donc bien. Et puis, préparez-vous bien à cette fête de Pâques. Vous allez faire une bonne confession, pour ceux qui n'ont pas encore confessé. Préparez-vous bien à cette confession. Regrettez du fond de votre cœur tous les péchés que vous avez faits parce qu'ils ont flagellé Jésus. Ils ont crucifié Jésus. Ils ont couronné d'épines Jésus. Ne le faites plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi, dans tout le des amours, tu gardes ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Que toi, mon Dieu.